sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. C'était dimanche de Jacques Prévert.
Ah, bonjour, c'est Isabelle dans le Tarn. Je voulais partager avec vous le souvenir de ma grand-mère maternelle. Elle était sourde et aveugle, et voilà, et comme elle est décédée en 87, elle n'a pas bénéficié des moyens modernes de communication. Enfin voilà, j'ai grandi avec elle quand même, elle vivait avec nous, avec et mon grand-père aussi. Et voilà, et pour communiquer, comme elle était polonaise, ma mère et mon grand-père, ils utilisaient un tableau magnétique avec des lettres en relief. Ils écrivaient des mots, et puis bon, après ça passait beaucoup par... fallait deviner tout le reste, quoi. Hein. Parler beaucoup de questions où on répondait oui ou non. Moi, pour lui répondre, voilà, je faisais oui ou non avec la main, comme ça, en agitant la main. Sinon, on avait toujours quelqu'un à côté d'elle, et puis bon, bah, on lisait, on tricotait, ou on regardait la télé, voilà. Sinon, pour la petite anecdote, moi, je me suis mariée civilement en 82, et elle, c'était une bonne polonaise catholique, elle a toujours pensé que j'avais épousé un communiste. J'avais pas porté le voile pour mon mariage. Voilà, c'était une petite pensée pour Gertrude, ma grand-mère. C'est Isabelle de Saint-André dans le Tarn.
Oui, bonjour Daniel, toute l'équipe de BHCJ suis. C'est Olivier de Marseille, toujours instituteur. Je travaille maintenant avec des enfants justement sourds, malentendants. Donc je suis touché par l'émission que tu es en train de faire, Daniel. Je tiens à noter que l'intégration de mes élèves sourds, malentendants et la façon que l'on a aujourd'hui encore pour leur enseigner les douces connaissances de notre monde, eh bien, sont bien pauvres. Voilà, bah, écoute, une petite formation à l'éducation nationale aussi, mais très très minime. Ça se met en place sur Marseille, mais petit pas. Mais bon, on avance. Voilà, eh bien, écoute, toute mon affection pour les sourds et pour tout le monde, on tient bon. Allez, au revoir.
Daniel et puis toute l'équipe, bon, c'est peut-être pas un message qui passera sur l'antenne, mais je sais pas, j'avais envie de vous témoigner ceci. Je suis un chrétien laïque et œcuménique, et j'ai une petite fille qui s'appelle Lucie, qui est née le 25 décembre. Donc je suis le plus heureux des papas, parce qu'en tant que chrétien laïque œcuménique, qu'elle naisse le 25 décembre, c'est doublement génial. Et puis Lucie, c'est un prénom qu'on avait choisi avec sa maman depuis un certain nombre de temps. Lucie, la lumière, Louché, voilà. Donc tout arrive. Que je souhaite à toute l'équipe bonne continuation pour les prochaines années, un très bel avenir, une très très belle année, et beaucoup, beaucoup de lumière sur votre émission.
Ouais, salut à tous, c'est pour vous donner des nouvelles de la marche qui va de Nice à Nantes pour dénoncer le projet de Notre-Dame-des-Landes. Pour vous dire qu'ils sont bien repartis hier de Montpellier, qu'aujourd'hui ils marchent avec une vingtaine de militants qui s'opposent à l'extension du port de Sète, encore un grand projet inutile, et que bon an, mal an, ils vont se rapprocher de Lézignan, où je pense Gilles les rejoindra, et puis ensuite Toulouse, et ils remonteront. Nous, on les rejoindra au mois de janvier, parce que là, on va tuer le cochon. Ciao, viva, portez-vous bien.
Bonjour, c'est Jean-Luc de la Loire, je téléphone de Feur, là où le 25 juin 2011, deux ouvriers sont morts dans l'explosion de leur usine de fonderie. Ça fait 18 mois à Noël, l'enquête est apparemment toujours pas bouclé, ou en tout cas toujours pas rendu public, au grand désespoir des familles, du collectif de soutien qui s'est créé ce jour-là, qui a organisé une grande journée à Feur le 7 avril hein, avec 800 personnes. On a récolté l'argent pour pouvoir soutenir les familles et faire la démarche judiciaire. Maintenant, on attend qu'il y ait des procédures d'urgence, dans certains cas, au niveau de la justice, et pour les accidents du travail, visiblement, ça n'existe pas. On réattaque nos actions donc pour 2013 bien sûr, dès le 5 janvier à Feur, le samedi 5 janvier à 20h30. Il y aura une soirée théâtre avec un copain du collectif, Jean-Claude Vieux, qui a mis en scène La rivière à l'envers de Jean-Claude Mourleva. Donc c'est à 20h30 à la maison de la commune à Feur. L'entrée est libre. Collectif Vérité Justice, à bientôt.
Je suis en train d'écouter un best-of de « On va tous y passer ». Sur France Inter, avec entre autres invités Danny Boone, qui passe donc pour la deuxième fois. J'aimerais savoir si le service public, radio ou télé, qui fonctionne grâce à l'argent de nos impôts, ne pourrait pas s'abstenir d'inviter certains artistes, c'est-à-dire ceux qui font partie de nos chers exilés fiscaux. Est-ce qu'il est normal que des gens qui ne payent pas d'impôts en France soient invités pour faire leur promo et donc pour gagner de l'argent sur les médias qui sont financés par ceux qui payent des impôts en France. Je ne suis pas sûr. Voilà, sujet de réflexion.
Oh oui, c'est facile de dénoncer, de fustiger ces artistes, ces footballeurs, ces grands patrons du CAC 40, ou même ces ministres qui s'installent à l'étranger pour ne pas payer les horribles impôts que le régime totalitaire, socialo-communiste français impose aux plus doués, aux plus travailleurs, aux plus aventureux d'entre nous, à ceux qui créent d'emplois et des richesses, à ceux qui réussissent et dont nous sommes jaloux. Ah oui, c'est facile de les critiquer, de les dénoncer. Il est facile, ce racisme-là. Mais savez-vous ce que c'est que l'exil? Quitter sa patrie, refaire sa vie parmi des Belges ou des Suisses? C'est le sujet sur lequel nous revenons aujourd'hui dans la base où j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés au cours de la dernière saison dans le répondeur de là-bas si j'y suis.
C'est insupportable de penser qu'on est dans un guet-apens et qu'il y aurait un fatalisme et qu'on ne peut pas faire autrement que de s'affilier à cet état d'esprit largement répandu qui consiste à penser que le libéralisme est tout ce bordel, on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas y échapper. C'est faux. Et on peut inventer quelque chose d'autre, un autre modèle. Si on prend déjà en conscience qu'on est dans un processus d'enfermement, c'est le début de quelque chose. Si on se dit on ne peut pas faire autrement, c'est la fin de quelque chose. Ça suffit, ces conneries. Ce fatalisme de merde.
Certaines se réalisent dans le combat politique. D'aucuns ont la fibre d'écrivain. Tels aiment les enfants et se réalisent dans la famille. Moi, finalement, ce qui m'aura le plus plu et ce que j'aurais fait le mieux sur cette petite terre rigolote, ce sont les bouquets. Bouquets de poèmes, bouquets de fleurs, voilà. Peut-être bouquets de visages sur certaines photos. C'est ce que j'aimerais qu'on grave sur ma tombe, si jamais par hasard on m'enterre, au lieu de m'incinérer, comme c'est la mode en ce moment, on dira, elle ne savait pas faire grand-chose, mais Dieu qu'elle faisait de jolis bouquets.
Quand les esprits seront mûrs pour réaliser la véritable nature de l'ennemi commun, alors la révolte sera certainement d'une envergure encore peut-être jamais égalée. Ils devront répondre du mépris avec lequel ils ont considéré la commune, dans quel mépris le fruit de nos labeurs fut accaparé, dans quel dédain ils laissèrent croupir cette merveilleuse et nécessaire visée qu'est l'égalité, avec quel stratagème machiavélique ils manipulèrent l'information pour écraser un peu plus chaque jour celle qui donne un sens à nos vies, la fraternité. Et dans quelle hypocrisie abjecte ils voulurent nous faire croire que nous étions libres, libres de consentir à leurs choix médiocres, libres d'accepter leurs règles qu'ils nous imposaient, libres d'être résignés. Tripalium, Saint-Étienne. Celui qui consent sa soumission, l'aliéné loyal envers son maître, l'esclave participant à son asservissement, le soldat défendant corps et âme, le tyran maintenant son genou à terre, celui-là n'a que deux choix, se révolter ou périr. Vivons nos vies.
Eh bien moi, tu vois, Daniel, métaphysiquement parlant, je précise, je suis un aquaboniste. Je pense que la vie ne mène nulle part, et que cette absence de terme gâte profondément le plaisir que je peux prendre parfois à effectuer le trajet. Il me semble que l'existence est un rêve d'enfant. Je veux dire, elle n'a été belle que dans la forme sous laquelle elle nous est apparue, sous laquelle on l'a rêvée quand nous étions enfants. Mais plus on avance dans la vie, et plus ce rêve se dissipe. Plus on avance dans la vie, et plus l'avenir se dérobe. Je crois que celles et ceux qui ont le sentiment qu'il leur arrive quelque chose ne sont pas sortis de l'illusion. Or, les illusions, si pleines de charme lorsqu'elles surgissent dans la tête d'un enfant, perdent progressivement leur grâce jusqu'à devenir totalement obscènes au fur et à mesure que cet enfant grandit et que l'âge vient. Autant les rêves d'enfant sont merveilleux, autant les ambitions d'adultes sont extravagantes et pitoyables. Car là commence la carrière. Celles et ceux qui cherchent à faire carrière, c'est-à-dire à réaliser leur ambition, c'est-à-dire à imposer aux autres leur besoin de se distinguer, m'inspirent le plus profond dégoût et me gâchent le simple plaisir que j'avais à simplement exister. Finalement, la révolution, ça devrait être ça. l'abolition des privilèges entendue comme l'abolition des ambitions démesurées et disgracieuses, parce qu'elles sont démesurées. Et si la politique consiste à chercher le meilleur moyen de faire société, alors je me pose la question de savoir comment faire société avec tous ces imbéciles qui ne sont mus que par le désir extravagant de conquérir le pouvoir.
La Suisse est un petit pays, ben ils se protègent. On a des abris anti-atomiques, ça vous savez.
Moi j'ai un abri ici. Hein.
Vous avez un abri ici, anti-atomique?
Chaque villa a son abri anti-atomique.
Et qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le mode de vie ici en Suisse par rapport à la France?
Alors c'est le calme, la tranquillité. Tout est tracé, on sait exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire.
C'est droit, c'est net, c'est clair, c'est droit, c'est net, c'est clair, c'est... On est plus sûr ici, on se sent plus en sécurité. Les gens sont disciplinés, donc c'est sécurisant, c'est... Chacun contrôle tout le monde.
Là, ce qu'on sent, ça fait partie de la Suisse aussi, là.
Ah ouais, ça sent...
Il purine. De temps en temps, ça sent la merde.
Salut, c'est Daniel Mermès et là-bas, j'y suis avec Charlotte Perry. Heureux comme en Suisse. On mangerait par terre.
Flight number 2, arriving from New York.
Prochain arrêt, Montreux.
Bon, alors là, je me trouve à la gare de Montreux. Je viens d'arriver. Montreux, c'est à l'extrême est du lac Léman, en face de Genève, en fait, de l'autre côté du lac. Montreux, c'est une ville qui est célèbre pour son festival de jazz. C'est une ville magnifique. Toute la région, d'ailleurs, est magnifique. On l'appelle la Rivière Vaudoise. Et là, je suis venue à Montreux aujourd'hui pour rencontrer Monsieur Jean-Jacques Poutrieux, qui a été pendant 20 ans le président de l'Association française des Français de la Rivière Vaudoise, qui est une association qui regroupe 250 familles, qui va fêter ses 120 ans. Et je vais le rencontrer pour comprendre comment les Français de Suisse perçoivent l'élection présidentielle française. Alors il faut bien comprendre que la communauté française de Suisse est la plus grosse communauté française du monde. Il y a 150 000 Français qui vivent en Suisse, mais évidemment, tous ne sont pas de riches exilés fiscaux. On dénombre environ 2000 grosses fortunes françaises qui bénéficient du fameux forfait fiscal suisse, qui peuvent donc négocier leurs impôts avec le canton dans lequel ils vivent, mais les autres, eux, payent des impôts comme les Suisses. Alors, monsieur Poutrieux, il a exercé différentes fonctions politiques ici en Suisse. Pour la France, il a été élu au Consulat général de France à Genève. Il a été représentant à l'Assemblée des Français de l'étranger, qui est un peu comme l'Assemblée nationale en France, mais pour les Français qui vivent à l'étranger. Et il est installé en Suisse depuis plus de 40 ans.
Il n'y a pas un papier qui traîne, hein. Oh, regarde ça. Il n'y a pas un mégot, hein. Comme c'est ciré ou c'est verni, ça? Oh, dis donc. Et puis alors, les prés, hein, ils sont bien au carré. Ils doivent les finir avec des petits ciseaux. C'est manucuré. Le paysage, il est manucuré, vous avez compris. On est en Suisse. Bien organisé, la sécurité, la tranquillité, la propreté, la discipline et les abris anti-atomiques. On est en Suisse. Les voleurs de voitures, c'est une balle dans la tête et c'est très bien. Les minarets, on n'en veut pas. Mais il y a des Français vous allez le voir, qui aiment ce pays vraiment avec de tout leur cœur. Et c'est avec eux qu'on va passer cette heure, une balade avec Monsieur Poutrieux, Jacques Poutrieux, et son épouse Arlette. Avec une question. Qu'est-ce qui doit le plus nous interroger? Le bruit des bottes ou le silence des pantoufles?
Et si le soleil brille tous les jours de l'année, et s'il y a des nuages, c'est ceux du village à côté. Je te parle du pays où est née la nature. Ici il n'y a que des vélos, ici il n'y a pas de voiture. Toutes les rivières du monde prennent leur source ici. Toutes les montagnes du monde, elles ont grandi ici. Toutes les fleurs du monde, elles viennent naître ici. Ici même la marée noire finit toujours blanchie. Ici y a pas de banque, on s'arrange entre nous. Ici y a pas d'impôts, on s'arrange entre nous. Ici y a pas de crime, on s'arrange entre nous. Ici pas de tourisme. Viens vite chez nous et cueille une petite fleur. Va chanter sur la montagne.
Attrape le bonheur.
Mais avant de partir, n'oublie pas surtout de reposer la fleur, parce qu'elle est à nous.
Alors maintenant tu la poses cette fleur. Tu la poses doucement. Tu as ton nom de doigt marqué sur la fleur là. Alors tu files galinette.
Ici même les lapins ils ne font que deux enfants. Les marmottes elles ne dorment qu'une seule semaine par an. Ici les kangourous ont deux poches, une pour chaque main. Ils font un show aquatique que n'ont pas les américains. Ils ont un groupe de flûte avec Christian Morin. C'est le paradis sur terre, en plus ça sent le romarin. Je te parle du pays où est né le bon Dieu. Et les croyants d'ici ils aiment le seul vrai Dieu. C'est pas pour que tu viennes ici, c'est nous on chante ça. Mais si j'étais à ta place je serais jaloux de moi. Ici y a pas d'école, on s'arrange entre nous. Ici y a pas de livres, on s'arrange entre nous. Ici y a pas d'embrouille, on s'arrange entre nous. Ici pas de préfet.
Oh, y en a plus là.
Viens vite chez nous, écoute l'eau de la rivière, va chanter sur la montagne.
Attrape le bonheur.
Mais avant de partir, n'oublie pas surtout de payer toute l'eau, parce qu'elle est à nous.
Quand tu marches, l'arbre il te suit là, non? Eh ben c'est qui là nous? Alors quand tu marches loin de lui et tu t'appuies pas dessus.
Ici depuis mille ans les bons mariages sont consanguins. C'est en faisant des sélections qu'on améliore le genre humain. Nos hommes sont solides comme doivent être les hommes. Nos femmes elles sont belles comme doivent l'être les femmes. On vaut pas aux Anglais ni nos maisons ni nos placettes. Ni aux Français ni à personne nos maisons nous on y reste. Mais on sait faire la fête, on connaît le mot buvette. On n'est pas des alcooliques, on aime juste bien faire trinquette. La plus belle équipe de foot, c'est celle qu'on a chez nous. Les plus beaux alcotesses, c'est ce qu'on a chez nous. La plus belle tolérance, c'est celle qu'on a chez nous. La bonne couleur de peau.
Oh,
viens vite chez nous et respire le bon air. Va chanter sur la montagne.
Attrape le cancer.
Mais avant de partir, n'oublie pas surtout de recracher tout l'air, parce qu'il est à nous.
Oh, tu l'as vu ce caillou là? Bah, tu as mis de la poussière dessus, alors tu l'enlèves. Et tu as plus besoin quand tu marches sur la montagne là. Tu vois, tu la tasses. Alors maintenant tu as compris, j'espère. Là où c'est que c'est le mieux, c'est là où c'est qu'on vit. Mais pour bien comprendre ça, tu vois, faut être né ici. Alors toi l'étranger, toi le paria, si tu viens ici, on t'ouvrira les bras. Mais pas que ça.
Voilà. Bonjour monsieur.
Finalement je suis descendu en voiture parce que mon épouse était partie chez le coiffeur. Et contrairement à l'habitude, ça a duré moins longtemps que prévu. Alors du coup je suis descendu en voiture.
Vous m'avez reconnu grâce au micro?
Oui, enfin je pensais que j'y allais voir quelqu'un arriver, puis je vous ai vu parler dans le micro, je lui ai dit ça doit être elle.
Alors vous êtes installé ici depuis combien de temps?
42 ans.
42 ans?
42 ans, oui. 42 ans en Suisse, oui. Moi j'habite. Et la maison qu'on voit la plus haute, là, c'est le bout du village où j'habite.
Ah, là, moi, la maison blanche qui se dresse tout là-haut.
Moi, je suis encore derrière, derrière et au-dessus. Oh, c'est plaisant. On est dans une région plaisante, ça, c'est clair. Ça, c'est le train qui arrive de moi, de là où j'habite, la Chernay. Mais c'est le train qui vient de Gstaad. Il va jusqu'à Gstaad, Zweisimmen, Interlaken et Lucerne. Mais rien que des petits trains de montagne. Alors ça, c'est la différence fondamentale avec la France, c'est que tous ces trains... Ici, ils les gardent. Ils les gardent, ils les entretiennent.
Les anciens trains, c'est, ah c'est
oui,
des oui. Vieux trains,
oui,
ça.
Des vieux trains. Mais ça, c'est un train à crémaillère. Hein. Parce que c'est clair, ici, on est à 400 mètres, hein, et il monte à 2000. Il y a 1600 mètres de dénivellation sur très peu. Par exemple, lui, il arrête, ben, moi, où je travaillais, là, à Glion, à l'école.
C'est hein. L'école de...
Une école d'hôtellerie. Une école de management hôtelier, pour être plus précis.
C'est, elle est connue, non?
Très. Bon, les deux plus importantes, c'est Glion et Lausanne, quoi. l'école de Lausanne, l'école de Glion.
Et vous, vous travaillez à l'école de Glion?
Ah, je travaille plus. Non, non, c'est terminé. Non, 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 j'ai arrêté en 2006. Puis je suis à la retraite.
Et vous voulez voir l'école?
Ah bah ouais, je veux bien, ouais.
C'est l'école.
Voilà, un homme chaleureux, un brave homme avec une belle paire de bacchantes. Il s'est occupé de cuisine très longtemps dans sa vie. Il va nous faire découvrir voilà, son coin. Il nous reçoit très chaleureusement. Et il nous emmène tout de suite dans cette célébrissime école d'hôtellerie de Glion, où il faut avoir les moyens pour y faire des études. 50 000 euros par an. Et oui, mais ça forme les grands chefs. Une fierté pour M. Poutrieux.
Bonjour.
Bonjour. Alors là,
regarde,
on rentre.
J'ai essayé d'aller la voir, la gouvernante. Je sais pas si elle est là.
Ouais. Housekeeping Landry.
Salut! La gouvernante, c'est une Française. C'est pour ça que je vous la présenter.
Bernadette.
Salut, t'es la gouvernante.
Oh, bonjour.
Je te présente madame ou mademoiselle, j'en sais rien.
Mademoiselle.
Mademoiselle Perry.
Bonjour, enchantée.
Madame Marcato.
Journaliste à France Inter.
France Inter.
Oui.
Que nous voulons l'honneur de votre visite
je à Glion
avec
un.
D'accord.
Alors, juste, vous faites quoi ici à l'école Glion?
Je suis la gouvernante générale. C'est-à-dire je m'occupe de tout ce qui est entretien, équipe d'entretien, nettoyage, surveillance des étudiants, décoration.
Et moi, j'étais venue pour faire un reportage sur la campagne présidentielle française vue par les Français en Suisse. Vous suivez, vous, un petit peu?
De loin, parce que je trouve que c'est assez catastrophique. Alors, je ne veux pas prendre de risques, alors je reste loin, éloignée. La France ne donne pas une bonne image à l'étranger, d'elle-même. Trop de petits bagarres de clochers style Don Camillo et Pépone. Voilà. Je trouve qu'en étant à l'étranger, on a peut-être une vision extérieure et on est spectateur de ce qui se passe. Et c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus d'unité et de solidarité surtout.
Puis étant à l'étranger, on regarde avec un certain recul. Et à la limite, de voir ce qui se passe en France, d'une certaine façon, ça nous fait mal. Et comme dit Bernadette, bon, même s'il y a un micro, quand on voit le bordel, voilà, c'est... Oui. J'ai entendu, par exemple, hier matin, ils interviewaient Sarkozy. Alors, attendez, là, il faut que je réfléchisse pour vous dire la connerie qu'il a dit. Il a parlé de la diminution de l'augmentation du chômage. Ça veut tout dire. Hein. Il faudrait mieux, à ce moment-là... Avouer qu'en France, du chômage, il y en a encore plus que ce qu'ils annoncent. Hein. Ils sont même largement au-dessus de 10%. Alors pourquoi en France, j'allais dire chez eux, chez nous, pourquoi on est à plus de 10% de chômeurs, puis ici on est à 3,5% en Suisse? Bon, il y a des cantons qu'on a plus, il y a des cantons qu'on a moins, c'est clair. Mais ici on est à 3,5%. Hein. Je pense que c'est mieux géré, c'est tout. Ici, depuis la Confédération jusqu'à la Commune, c'est toujours la même structure et le même système. À la tête de la Confédération, vous avez un exécutif de 7 personnes. Autrement dit, il y en a 7 qui dirigent la Suisse. Hein, il y a 7 personnes. Il n'y a pas une chier de, puis un petit tas de ministres comme il y a en France. Hein, il y en a 7 et point final. Et dans les 7, il y en a un qui représente la Suisse, qui fait président de la Confédération. Mais c'est par tournus. Comme ça, ils ne se battent pas comme en ce moment-là. C'est par tournus et ça change tous les ans. Chacun son tour. Vous arrivez, vous descendez au canton, c'est exactement la même chose. L'exécutif, c'est 7 personnes. Et vous descendez à la commune, c'est la même chose. L'exécutif, c'est 7 personnes. C'est pour ça que ça va bien, c'est tout. C'est pas une personne, c'est 7 personnes. Hein. Et toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Il faut que tout le monde soit d'accord, il faut que les 7 soient d'accord. Hein. Et après, il n'y a pas d'histoire. Et je pense que c'est là toute la différence.
Ce que je disais avant, l'unité.
Et à mon avis, hein, il y aura des surprises aux élections. Là. En Suisse, je suis à peu près certain que le vote sera à droite. Hein, la Suisse, les gens qui sont ici, le vote sera à droite.
Les Français de Suisse vont voter majoritairement à droite.
Ce bouc nain s'appelle Zottel. Et en Suisse, tout le monde sait qui il est.
France 24.
Certains l'adorent, d'autres le détestent.
10 octobre 2007.
Zottel est la mascotte de l'UDC, l'Union démocratique du centre, un parti politique suisse de la droite nationale fréquemment qualifié de xénophobe. Pendant la campagne, Zottel est à la tête de tous les cortèges de l'UDC. Mais ceux qui font le plus scandale, ce sont ses amis les moutons qui figurent sur l'affiche de campagne du parti. On y voit 3 moutons blancs sur un drapeau suisse. Un des moutons blancs boute hors du drapeau un mouton noir avec ce slogan « Pour plus de sécurité ». L'UDC a fait de l'immigration son terreau électoral. Le parti propose notamment l'expulsion des criminels étrangers. De quoi le taxer de racisme, l'UDC se félicite plutôt d'avoir ouvert le débat.
Notre campagne est un succès. Notre affiche est la meilleure qui ait été faite depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons ainsi créé un débat.
J'ai pensé que j'avais une enveloppe derrière pour voter.
Ça.
Ah, votre matériel de vote.
Oui. Vous recevez le... tout à la maison, puis vous votez par vous mettez à la poste. Soit à la poste où il y a une boîte à laquelle, dans laquelle vous pouvez mettre ça. Et puis là, c'est les élections du Conseil d'État. Donc c'est pour le canton. Ici, tout passe par le peuple. Tout. Hein, c'est le peuple qui décide pour tout.
Là, il y a au-dessus, il y a une affiche électorale pour l'UDC.
Ouais. Le nom, c'est Union démocrate du centre. Union démocratique du centre. Mais en fin de compte, l'UDC, il est à droite, quoi. C'est plutôt même... Bon, ça fait un peu si vous... Oh, non, merde, c'est vrai, on va à la maison. Moi, j'habite l'autre côté, là. On va passer par une toute petite route, là. Mais si vous voulez, l'UDC, celui qui a monté l'UDC, c'est un Suisse allemand, c'est Blocher. Et allez, il était un peu comme le père Le Pen, là. Attention, hein, c'était... Mais aujourd'hui... C'est le parti politique majoritaire en Suisse.
Majoritaire ?
Majoritaire.
Et c'est à peu près l'équivalent du FN en France ?
Maintenant, oui. Et depuis que c'est Marine Le Pen. Je pense qu'on peut mettre la balance. Mais là, disons que c'est elle, je pense qu'elle est, elle est à la tête d'un courant qui va aller grandissant. Hein. Faut pas rêver. Hein. Et par rapport à ici, bon, ben, maintenant, on peut la comparer à l'UDC. Et on va passer sur un petit pont qui date des Romains. Mais il tient encore.
Et alors l'UDC, enfin, ils défendent quoi comme valeur ?
La Suisse. C'est ce que j'apprécie. C'est vraiment des gens... Alors, ça, c'est des termes qui, aujourd'hui, en France, ont perdu leur valeur. Et puis, en France, si vous êtes nationaliste... Ah, c'est plus bien d'être nationaliste. C'est pas bien de soutenir son pays, de défendre son pays. Bon, ben, l'UDC, c'est des nationalistes, c'est tout. C'est des gens qui défendent leur pays. Je me cache pas que si je ne sais pas, si je dois voter, puis je connais pas ailleurs, je vote UDC, fini, terminé. Au moins, c'est les seuls qui défendent la Suisse.
L'UDC, c'était eux aussi qui avaient fait cette campagne dont on avait parlé en France, nous, avec les moutons blancs et puis le mouton noir, non ?
Ça continue, hein. Ils ne sont pas arrêtés pour ça, hein. Puis ils ont raison. Ils ont raison.
Qu'est-ce que ça voulait dire, cette campagne ?
Ben, cette campagne, ça voulait dire que... Eux, ici, c'est pas la même mentalité qu'en France. Ici, d'abord, on a voté contre les minarets, hein, ici. On a voté contre les minarets. Toute l'Europe a semblé drôle. Puis après, toute l'Europe a dit que la Suisse avait raison et avait osé. Mais, écoutez, si vous allez dans un pays qui n'est pas le vôtre, si vous allez dans un pays étranger, le pays a la gentillesse de vous accepter, ben, ou vous vous intégrez, ou vous partez. Mais vous n'amenez pas vos coutumes, vos histoires, vos... non. Ici, les gens... Attention, c'est même pas comparable le nombre d'étrangers qu'il y a en Suisse par rapport à la France. C'est un des pays où il y a le plus d'étrangers au monde.
La Suisse ?
Ah oui, mais les gens sont gérés. La Suisse, sans les étrangers, elle pourrait pas tourner.
C'est ça aussi, ils ont la gentillesse de les accueillir, mais en même temps, ils en ont besoin.
Oui, mais ils les font travailler, hein.
Alors, par exemple, pour revenir sur le mouton noir, vous, en tant qu'étranger, vous étiez aussi le mouton noir ?
Pas du tout. Non, non. Non, non, non. Les moutons noirs, c'était pas contre les étrangers, c'est contre une certaine catégorie d'étrangers.
Quelle catégorie, alors ?
Ben, celle qui fait chier le monde en France. C'est celle-là, c'est tout. Et ici, ils se laissent pas faire. Et entre autres, l'UDC.
Mais c'est la... Enfin, qui fait chier, c'est...
Ouais, ben vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas. mon voisin, il a son fils qui est dans une banque, ici, à Vevey. Il y en a une qui est venue au guichet, voilée, pour avoir de l'argent. Il a dit, madame, vous retirez votre voile. Vous retirez votre voile. Elle n'a pas voulu, dehors. Même si le fric avait à la banque, c'était à elle, mais ici, c'est comme ça. Et je pense que c'est pour ça que ça va bien. Alors, là, ce qu'on sent, ça fait partie de la Suisse aussi, là.
Ah ouais, ça sent...
Il purine. De temps en temps, ça sent la merde. Ah, c'est là que j'habite.
Ah, vous avez un drapeau suisse devant votre maison ?
On est suisse.
Un virage à droite sans précédent.
France 3.
Déjouant tous les pronostics, une écrasante majorité de Suisses, plus de 57%, a dit oui à l'interdiction de construire de nouveaux minarets.
29 octobre 2009.
Une victoire inattendue pour la droite populiste qui avait lancé ce référendum aux accents ouvertement racistes. La preuve, ces affiches du parti UDC représentant une femme voilée devant un drapeau suisse sur fond de minarets dressés comme des missiles.
Nous ne sommes pas contre la religion musulmane.
Walter Wobmann.
Mais nous sommes contre l'islamisme.
Conseiller UDC.
Ces gens-là ont le droit de pratiquer leur religion. Mais le développement des minarets, des muezzines et de la charia vont à l'encontre de notre société démocratique et de notre liberté.
Le gouvernement, les partis politiques et toutes les communautés religieuses avaient pourtant fait front contre cette initiative. Mais le résultat est là. Sur 26 cantons suisses, 4 seulement ont rejeté la proposition des extrémistes.
Ave, Ave Maria, svolti Gott und Maria, gelob sei Jesus Christus, in Ewigkeit, in alle Ewigkeit.
Ici, il n'y a pas de route, pas d'autoroute, pas de ligne de chemin de fer, rien. Les oiseaux.
Une vue aussi imprenable sur la montagne, le lac. C'est de la...
lierre, ça.
Du lierre.
Si, tout pousse. Tout pousse pour la bonne raison, c'est que... c'est des... derrière, il y a des marais. Des marais de chaux, là. Et puis, il y a de l'eau, il y a de l'humidité. Puis, il y a de la douceur. Je passe devant ?
Je vous en prie.
T'es où ?
Ah !
Bonjour madame !
Oh là là ! En plus vous avez la radio !
Enchantée !
Bonjour, on s'embrasse !
Si vous voulez !
Ça se coupe !
Voilà ! Eh ben oui, chaleureux, monsieur Pontrieux, madame son épouse, vraiment très très sympa. On revient, alors là, ce que vous avez entendu là, c'était pas un muezzin, hein, j'espère que vous avez bien compris, c'était au contraire un Ave Maria. Oui, il y a une petite ressemblance, c'est vrai. Alors pour revenir un petit peu sur l'UDC, là, cette droite populiste, c'est vrai que ce parti reste la première formation politique du pays, mais elle a reculé un tout petit peu au dernières élections de 2012, du printemps 2012, de 28,9 à 26,6. Mais enfin, ça reste un parti extrêmement important, le premier en Suisse. Alors voilà, on est reçus chaleureusement, enfin Charlotte surtout, mais enfin, puisque on est tous là, ben, on est champagne pour tout le monde.
Vous êtes chez des Champenois, exilés, hein. On est travailleurs émigrés, exilés. Mais l'exil n'est pas trop difficile à supporter. Oh. Puis dès l'instant qu'on a un peu de sirop.
Ça vient de chez vous ?
Oui, ça vient d'un petit village du Ménil-le-Huttier. C'est à quelques kilomètres d'Épernay. Un petit bled au bord de la Marne. Et mon épouse vient de Dormans. Donc on est les deux là-bas. Là maintenant, je vais vous expliquer comment on est arrivé ici. Si vous voulez, en rentrant de mon service militaire, on s'est mariés. Mes parents donc étaient charcutiers-traiteurs. Et 1er janvier 1964, j'ai repris la maison. Donc mon père m'a donné
la maison, le fond. Au début, tout s'est bien passé. Et je l'ai tenu jusqu'en 70, 70, quoi, jusqu'au temps qu'on vienne ici. Mais, comme mes parents m'avaient envoyé un peu à l'école, je faisais toute ma comptabilité. Et j'ai fait une comparaison entre ma comptabilité et celle de mon père, 10 ans avant. Et j'avais des frais qui étaient multipliés par 16. 16. Par exemple, c'était un camion, une petite camionnette pour faire les tournées, c'est pour faire la vente. Mm-hmm. Mon père, celle qu'il avait fait faire, agencer à l'époque, ben, il n'y avait pas des normes comme les normes qu'il y avait après, qui ont été pondues après, où il fallait que ce soit réfrigéré, gna gna gna, et puis tout un tas de trucs. Et moi, la camionnette, elle me coûtait 16 fois plus cher. Hein. Bon, il n'y avait pas que ça qui était augmenté. Et là, je me posais la question, qu'est-ce que j'allais faire? Et en 69, j'ai un apprenti qui avait été déclaré premier de la Marne, premier de la Champagne, troisième de France. Et il décorait, c'était le ministère du Travail, qu'il décorait de la médaille de bronze du ministère du Travail. Puis moi, j'avais la même en tant que maître d'apprentissage. Et j'en avais tellement marre, je ne voulais pas aller la chercher. Mais c'est ma femme qui me dit, mais vas-y, ça se faisait à Reims. Me dit, vas-y, bon, j'y suis allé. Ils ont remis la médaille aux gamins, ils m'ont remis la médaille. Et après, Champagne, à la suite de cette remise de médaille, le président de la Chambre de commerce, Champagne-Ardenne, est venu vers moi et m'a dit, monsieur Poutrieux, la prochaine sera une médaille d'argent, une médaille d'or. J'ai dit, il n'y aura ni l'une ni l'autre, j'arrête. Il me dit, comment ça? Puis je lui ai expliqué la comparaison que j'avais faite avec la comptabilité de mon père. Il m'a pris à part. Il m'a dit, c'est vous qui avez raison. Il m'a dit, on a des statistiques. 69, hein, on a des statistiques. 50% du petit commerce et de l'artisanat français doit disparaître dans les 10 ans à venir. Et là, personne n'en parlait. Hein. Mais c'était un phénomène de société. C'est pas de la faute à la droite, de la faute à la gauche, la faute. C'était un phénomène de société. Et tout ça venait essentiellement par l'arrivée de la grande distribution. Dans cette région où on était, en 69, il s'est ouvert 11 grandes surfaces entre Château-Thierry, Reims et Pernay. 11 grandes surfaces. Chalon, c'est venu après. Oui, Chalon, c'est venu après. 11 grandes surfaces. Alors, ça s'appelait Mammouth, ça s'appelait Radar, ça n'avait plus les noms que ça aujourd'hui, quoi. Mais 11 grandes surfaces. Et ça a changé complètement la physionomie du petit commerce. Et là, président de la Champagne-Ardenne, c'était M. Dougou, je me souviens, quand il m'a dit ça, ouf, il m'aurait mis une baffe, c'était pas pire. Là. Je suis rentré, j'étais écœuré. On a discuté avec mon épouse, il faut faire quelque chose, on ne va pas rester comme ça. Puis finalement, on a dit, bon, on arrête. Hein. J'ai dit au père, on retourne chez le notaire et je te rends tout. J'ai tout rendu à mon père. Et on est parti. Mon épouse, les deux gamines, chacun deux valises. Basta, fini, terminé. Et on est reparti à zéro. C'est comme ça qu'on a atterri ici. Ouais. Puis un peu aujourd'hui, bon, on est là, on a une maison, on a travaillé tous les deux.
On fait 35 heures par semaine.
Vous aussi, vous travaillez, oui. Madame ?
L'hôtel où je travaillais, ils l'ont engagé ici, à leur hôtel à Montreux, où elle s'occupait, elle était responsable de la piscine. Et c'est comme ça qu'on a commencé.
On s'est intégrés. On s'est intégré, et puis ben, aujourd'hui, je ne sais pas si on a un peu l'accent suisse, mais on a perdu un peu l'accent champenois.
Alors, à votre bonne santé, bienvenue.
Vous aussi.
Santé.
Santé.
Là, Monsieur Poutrier, on se trouve chez vous, dans votre maison. Donc, ça fait 40 ans que vous êtes installé ici.
42 ans en Suisse et 32 ans dans cette maison.
Mais il n'y a pas des choses qui vous manquent en France, quand même?
Non, non. À part côté de la bouffe, des fois. Hein, manger des andouillettes, des pieds panés, mais c'est tout.
Mais qu'est-ce que vous appréciez le plus dans le mode de vie ici en Suisse par rapport à la France?
Alors, c'est le calme, la tranquillité. Tout est tracé. On sait exactement ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire.
C'est droit, c'est net, c'est clair. On se sent plus en sécurité. et pour tout. Les gens sont disciplinés. Donc c'est sécurisant, mais c'est...
Les problèmes qu'on a ici sur le plan de la sécurité, ou de l'insécurité, la majorité viennent de l'autre côté, ça, viennent depuis la France. C'est des bandes qui viennent de Lyon, qui viennent de... Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu... Oh, il y a un peu plus d'un an, là, 18 mois. C'était sur le canton de Fribourg. Deux gamins qui venaient voler des voitures en Suisse. Hein. Mais entre autres, là, ils en avaient volé une. Et ils sont passés à Berne. Les flics n'ont pas pu les arrêter hein, parce qu'ils traçaient. Ils ont prévenu les flics du canton de Fribourg. À l'entrée d'un tunnel, alors ici, ils mégotent pas, hein, la herse. Ils ont tiré la herse. Hein. C'est un truc avec des clous, là, des picots grands comme ça, là, qui rentrent dans les pneus. Là. Vous restez sur place. Hein. Bon, ils avaient tiré la herse, mais ils avaient laissé pour une place, pour les voitures, quand même, pas bloquer la circulation. C'est merdeux. Ils sont arrivés. Quand ils ont vu la herse, un coup de volant, ils ont passé par la partie où il n'y avait pas la herse. Là, les flics, pas de détails. Hein. Il y en a un, il a pris une balle en pleine tête. Hein, bah, c'est clair. Forcément que la voiture, elle s'est arrêtée. Celui qui était dedans, il s'est sauvé. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques temps après, je crois, un mois et demi après, toute la Smala est venue de Lyon, hein, avec la mère qui poussait des pleurs. Vous voyez où ils viennent, hein, c'est une équipe d'aide babéloïde, là. Ils sont venus avec toute la famille, je sais pas, 15 ou 20, avec des fleurs pour mettre des fleurs à l'endroit où le gamin avait été tué. Bon, je vais vous dire comment ça se passe en Suisse. Alors, ils ont posé leurs trucs et tout, ils se sont même pas occupés. Ils ont laissé faire. Après, ils sont remontés dans la voiture, ils sont partis. Arrivés à Bardonnay, la douane de Genève, là, les douaniers. Enfin, il y avait les flics qui étaient venus. Ils ont vérifié tout le monde. Puis dedans, il y avait celui qui était avec, comme c'était des jumeaux. Donc, ils se ressemblaient. Alors, ils ont dit, vous, monsieur, vous descendez. La mère, mais il a rien fait. Vous descendez, maintenant les autres, vous pouvez partir. Et depuis, je crois qu'il est au frais, là. Ici, c'est comme ça. En parlant de ça, j'ai dit, le flic, il a fait qu'une connerie. Pas avoir dégommé les deux.
Mmh. Hein? Mais il n'y a pas eu de procès d'intenté pour le meurtre d'un enfant?
Bon, c'est pas un meurtre. Vous appelez ça un meurtre? C'était des bons gamins, ils faisaient que voler des voitures.
Non, on peut les arrêter, les mettre en prison, on n'est pas obligé de tuer des gens.
Ça, c'est le phénomène en France.
Moi, avec ceux-là, je discute pas.
Ça, c'est clair.
La famille du jeune homme tué par un policier sur l'autoroute A1 s'exprime. Elle est venue de Vaux-en-Velin pour se recueillir sur les lieux. Témoignage exclusif recueilli par Isabelle Fion.
Est-ce que l'enquête est vraiment fiable? Est-ce que c'est un assassinat qui est déguisé?
Pour les proches du jeune homme, c'est une évidence. Il n'a pas pu être mêlé à un vol de voiture.
7 coups tirés sur la voiture, 4 balles touchent le véhicule, une seule traverse le pare-brise et blesse mortellement le passager. Ce Français de 18 ans décède quelques minutes plus tard dans le tunnel de Seva. Sa famille est arrivée hier soir à Fribourg. C'est le juge d'instruction chargé de l'affaire, Olivier Thormann, qui l'a reçu.
Ils n'étaient pas armés. C'est peut-être ils ont fait une connerie. Ils ont volé une voiture, deux voitures, peu importe le nombre des voitures. Mais comment ils peuvent tirer 7 fois? Mais à 7 reprises, vous imaginez sur 2 enfants.
L'injustice, oui. L'injustice, oui.
Écho d'une manif pour ce jeune homme, une manif à Vaux-en-Velin. Il faut savoir que le Front National tente de se rapprocher, même se rapproche du parti UDC, pour lequel Marine Le Pen exprime beaucoup d'admiration et donc essaye tous les rapprochements possibles. Voilà, on continue cette balade avec Jean-Jacques Poutrieux et son épouse, des Français donc, qui vivent depuis 40 ans en Suisse, où ils sont vraiment heureux.
Nous, ici, on a un peu ce problème, ici, sur la rivière Vaudoise, hein, on a un peu le problème, c'est que d'ici Genève, c'est quoi? C'est 50 minutes, mais de l'autre côté, c'est 20 minutes, et puis vous êtes en France, hein. Passant par le tour du lac, l'autre côté. 20 minutes, 25 minutes, vous êtes en France. Alors c'est clair que...
Un exemple.
Je rentre, J'arrive ici. Arlette me dit « T'as pas croisé une voiture ?» Et puis, si, un gros 4x4 noir. Là. Ouais. Ah, elle me dit « C'est drôle, c'est des gens qui sont des jeunes, le banc numéro 9-3, qui, okay. parce qu'ils viennent en repérage, hein, qui prétendaient qu'ils, aient, qu'ils faisaient une exposition à Genève et puis qu'ils avaient des tapis à vendre. » Ouh, bon. Marche arrière, je redescends. Je les cherche dans... Dans Chernay, rien. Je monte par Sonzier, le petit bled où on est arrivé, là. Hein. Sonzier, rien. Je remonte au-dessus, Chambly, rien. Ah, tout d'un coup, je les vois redescendre d'un petit chemin. Ils repéraient toutes les zones villes. Parce qu'après, ils donnent ça aux autres pour les cambriolages. Hein. Toutes les zones villes. Et puis, et comme un fait exprès, j'étais devant. Je me suis garé. Ils sont passés devant moi. Hop, ils se sont arrêtés dans une zone villa en haut, puis après dans une zone villa en dessous. Alors, j'ai eu le temps de prendre le numéro. Je suis rentré, je téléphonais aux flics à Montreux. J'ai dit voilà, j'ai expliqué, une voiture noire, tatata, des jeunes qui prétendent, etc. J'ai expliqué exactement ce que c'était. Merci monsieur. C'était le lundi. Le mercredi, j'ai vu sur le journal, ils avaient été arrêtés, transférés à Lausanne. Aussitôt, ils ont envoyé une patrouille. Ils ont envoyé une patrouille, et puis la patrouille qui les ont arrêtés, ils les ont arrêtés pour vente illicite, hein, parce que... Fallait un motif.
Ah, ils n'avaient pas cambriolé.
Non, mais pour vente illicite. Et puis après, ils les envoyaient à Lausanne. Puis à Lausanne, là, c'est le canton. Eux, ils se mettent en relation avec Paris, tout. Ils ont les machins. Et puis.
C'était pas des
pires. C'en est qui cherchaient à cambrioler.
Mais ça, c'est très suisse, par exemple, de quand on repère quelque chose d'anormal, de tout de suite prévenir.
C'est sûr.
Hein? Dès qu'il y a quelque chose de suspect, on le dénonce à la police.
Ah oui,
c'est clair.
Si c'est rien, s'il n'y a rien, donc il n'y a pas de problème. Mais ça peut, il peut y avoir quelque chose. Donc là, on est un quartier avec environ 20 villas. C'est le quartier des yeux ouverts, si on peut dire. Chacun contrôle tout le monde. On part en vacances, on le dit aux voisins, attention, on part en vacances, tu viens faire un tour à la maison, tu viens regarder.
Les voisins ont
la clé de chez nous, nous on a la clé de chez eux. Les autres voisins savent aussi, ils viennent faire un tour, nous vice-versa. Il y a quelque chose qui n'est pas normal ou des gens qu'on ne connaît pas qui se promènent dans notre quartier, où on va leur demander qu'est-ce que vous faites là, où on contrôle où ils vont. Mais on se contrôle l'un l'autre. C'est pas méchant, ça n'a rien de... Mais au moins, c'est une sécurité aussi. On en revient toujours à la sécurité que je vous ai dit. On a une alarme aussi. Mais vous savez, le contrôle visuel, le contrôle des gens, le contrôle humain est quand même autre. C'est quand même encore plus sécurisant. Puis en plus...
C'est pas un pays en guerre, enfin, il n'y a pas de...
Non, mais on est... Non, c'est pas en guerre, mais comment je vous dirais...
On se protège.
On se protège. Mais la Suisse est un petit pays, ben ils se protègent. On a des abris anti-atomiques, ça vous savez.
Moi j'ai un abri ici. Hein.
Vous avez un abri ici, anti-atomique ?
Oui.
Chaque villa a son abri anti-atomique. Mais on se protège. Enfin, c'est pas qu'on a peur de quoi que ce soit, mais il pourrait arriver. Quoi. On a une sécurité. On est en sécurité, mais on se met aussi en sécurité.
Les abris anti-atomiques, c'est pas parce qu'il va y avoir une guerre. Mais il peut y avoir, je sais pas, une centrale qui pète sur la France. Il y a un nuage qui passe ici. Il suffit de s'enfermer pendant 48 heures. Hein, on met ce qu'il faut dedans. Et puis, on passe là-dedans pendant 48 heures. Et puis, fini, terminé. Puis, on sort après.
Voilà.
C'est la prévention aussi. Pour tout. L'été, on vit ici.
Ah, sur la véranda. Mais vous avez toute une guirlande avec des drapeaux suisses et pas un drapeau français alors.
Non, regardez, on a le drapeau suisse là-bas. Mais on est en Suisse.
Oui, mais vous êtes français, non?
Oui, mais on est suisse. Nous, on était tellement heureux d'être suisse qu'on a mis le drapeau suisse.
Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de Français qui vont chercher à venir si jamais la gauche est élue?
C'est déjà fait. Ouais, il y en a plein qui viennent en ce moment. C'est la débâcle même. De toute façon, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas à venir ici. Hein. Mais il y a des moments où il y a plus. Ce moment, c'est l'invasion. Hein.
Pourquoi, à votre avis?
Ils ont peur. Ils ont peur de ce qui va se passer sur France. Et tout ce qu'ils promettent, les autres. Là.
Augmentation des impôts?
Certainement. Hein. Il y a un truc que je devrais vous raconter. Hein. Il y a quelque temps de ça. J'ai une amie dont son mari travaille avec moi. Elle, Gordana,
elle est serbe. Et elle comprend bien le français, elle a de la peine à s'exprimer en français. Et puis son mari est décédé. Puis quand elle a besoin d'aller à la banque, elle me demande d'aller avec elle. Et pour tout vous dire, on est descendu à l'UBS. Puis là, à l'UBS, parce que c'est...
Donc l'Union des banques suisses.
Ouais. Elle a son argent à l'UBS, c'était pour voir ce qu'elle voulait en faire, comment elle voulait la placer, etc., pour discuter. Et elle avait plus ou moins affaire toujours au même gars, au même banquier. Puis on attendait dans une pièce, là, dans le salon. Puis tout d'un coup, il y en arrive deux. Alors, le gars que je connaissais, puis il y en arrive un autre. On a parlé d'une chose et d'une autre. Et c'est à l'époque où Erich Wirtz, avait soi-disant des listes. Hein ?
La liste des 3000 exilés fiscaux qui devaient se rapatrier en France. Ils avaient mis en place une cellule de dégrisement pour que les gens se régularisent en France.
Voilà. Et celui qui était avec celui que je connaissais m'a dit, ce Poutrieux, celui-là, quand ça va se retourner contre lui, il va être mal.
Hein. Celui-là, c'est qui ?
Wirtz. Il m'a dit, il va être mal. Ah, j'ai dit, pourquoi ? Il me dit, lui, je l'ai vu arriver, avec des valises de pognon à Sarkozy. C'est lui qui les transportait. Alors il me dit, le jour que ça va se retourner contre lui, oh, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Quelques mois après, qu'il s'est fait foutre dehors, qu'il a eu de la peine, là.
Mais alors, Sarkozy aurait du fric planqué ici ?
Non, pas aurait. À l'époque, c'était le fric de l'UMP, là. Hein? Non, pas aurait, faut pas raconter, faut pas mettre de conditionnel dans tout ça.
L'argent que Mme Bettencourt ou les autres lui donnent pour financer le parti ?
Oui, entre autres. Certainement, je sais pas d'où ça venait. Hein? Mais lui, il arrivait avec des valises de pognon, là.
Pour placer dans les banques suisses ?
À l'UBS, tout simplement, parce que lui était à l'UBS. C'est lui qui l'a réceptionné. C'était pas du bidon.
Ben non, c'est pas du bidon. La preuve, c'est que c'est vrai. Ça peut pas être autrement. Ben ça, c'est un scoop. Hein. C'est des vraies infos de première main que nous donne Jean-Jacques Poutrieux. Vous avez vu comme notre Charlotte Perry est stupéfaite de la présence d'abris anti-atomiques en France, en Suisse, je veux dire. C'est ça qu'on devrait faire en France. La question du nucléaire, etc., serait de construire des abris atomiques absolument partout en France. On n'aurait plus rien à craindre si jamais il y a une centrale qui pète. On reste deux jours dans notre abri anti-atomique et puis deux jours après, on sort. C'est ce qui s'est passé en Albanie. En Albanie, vous avez 700 000 abris comme ça qui ont été construit au temps du grand Everodja. Mais là, on n'est pas en Albanie, on est toujours avec les sympathiques Jean-Jacques Poutrieux et Arlette, son épouse.
Là, on est descendu dans votre sous-sol. Là, c'est votre buanderie.
Bon, j'ai une cave aussi.
Vous avez une cave ? Là, c'est la buanderie. Ah, attendez. Il y a une porte qui doit faire quoi ? 40 cm d'épaisseur ?
Oh, j'en sais rien, mais elle est lourde. Hein. Ça pèse un cheval.
Oh, c'est énorme, mais c'est un bunker.
Oui, c'est un bunker. Ah, ouais, c'est clair, c'est une embryéité atomique. Mais ce qu'on fait tous, on remet une autre porte. Pour pas... Celle-ci, on n'y touche jamais. Hein.
Ah oui, puis vous avez mis une petite porte en bois, quoi.
Une porte comme ça, oui.
Cette porte, elle est impressionnante. Ah puis avec des... C'est quoi, ça ? C'est un... des gros énormes boulons, là ?
C'est pour la fermer. Ça, c'est la poignée pour la former. Ça vient là-dedans.
Bon, vous avez suspendu votre poubelle, là.
Oui.
Puis votre casquette.
Pour moi, ça sert à quelque chose, comme ça. Mais il y a une fenêtre, pareil.
Ah oui, qui pèse de bien 40 cm.
Et puis, donc ça... C'est un système pour filtrer l'air.
Parce qu'il
ne s'agit pas d'être enfermé. Donc il faut aussi respirer. Donc on prend l'air dehors, puis il y a des filtres. Et puis, alors c'est électrique. Et puis s'il n'y a plus d'électricité, ben, il y a une manivelle. Il y en a un qui donne la manivelle. Ça m'a coûté 10 000 euros, quoi, en gros. Quoi.
10 000 euros pour un abri atomique qui servira peut-être jamais.
Pour transformer la pièce en abri atomique. Oui.
Mais c'est obligatoire ?
Obligatoire. Ici, moi, j'ai fait ce qu'on appelle... Mais
donc là, on rentre dans une autre pièce.
C'est un carnotze, uniquement pour boire un verre. Là, si vous avez un copain qui vient, comme ça, on n'ennuie pas la femme en haut. Et j'ai même là pour le pastis, j'ai la flotte. Hein?
Et cette petite pièce, c'est très suisse, quoi. Tout est en bois.
Ça, c'est en Suisse. Ah oui, tout en haut.
Comme dans un chalet, quoi.
Ouais.
Et puis, il y a aussi tous vos trophées. C'est vos trophées, ça?
J'ai fait des élevages de canaris. Puis j'ai été champion suisse. Champion suisse, hein, Schweizer Meister. J'avais le plus beau rouge et le plus beau jaune de toute la Suisse. Hein. J'ai eu des canaris... ouais, mais j'en avais l'été, j'en avais 250, 300.
C'était un reportage de Charlotte Perry. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission « Là-bas si j'y suis » sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Basile Bocquer et Patrick Henry. Cette émission a été réalisée par Bertrand Chaumeton, Franck Adhérer et Chloé Sanchez. Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de « Là-bas si j'y suis » au 01 56 40 37 37.
France Inter présente deux films de Jacques Doyon en coffret DVD.
La vengeance d'une femme. Isabelle Huppert et Béatrice Dalle s'affrontent pour l'amour d'un homme disparu.
Trop peu d'amour, chassé croisé amoureux entre un cinéaste et les femmes de sa vie. Avec Lambert Wilson et Lou Doyon.
Deux films de Jacques Doyon, un DVD France Inter.
Dans quelques minutes, Sylvie Chapelle, on parle musique sur France Inter. Il est 16h. Les informations, Audrey Morellato.
La Finlande veut vérifier la légalité du contrat de STX, un contrat historique signé par les chantiers navals de Saint-Nazaire avec le croisiériste américain Royal Caribbean. La société française doit construire un des plus gros paquebots du monde pour 1 milliard d'euros. Le gouvernement finlandais, dont les chantiers étaient en concurrence sur ce contrat, va demander à la Commission européenne de vérifier si les règles ont bien été respectées. Il se demande notamment si des aides d'État interdites ont été utilisées dans ce dossier. Cette commande doit assurer en tout cas 3 ans d'activité au chantier français. De quoi respirer pour les salariés de STX qui étaient au chômage partiel. La société n'avait pas assuré de gros contrats depuis 2 ans. Il n'y a pas de raison de changer les prévisions de croissance. Déclaration cet après-midi du ministre des Finances, Pierre Moscovici. Le gouvernement s'est fixé un objectif de 0,3% de croissance pour 2012, 0,8% en 2013. Un objectif qui sera difficile à atteindre puisqu'elle a été revue à la baisse au troisième trimestre de cette année. L'INSEE a corrigé sa copie 0,1% contre 0,2% annoncé initialement. Et le chômage atteint un nouveau pic. Il n'a pas été aussi haut depuis 1997. Plus de 3 100 000 personnes cherchent un emploi et n'ont pas du tout travaillé en novembre. Un chiffre en hausse depuis 19 mois. La banque Dexia, presque intégralement nationalisée. La Commission européenne a donné son accord aujourd'hui au plan de sauvetage de la banque qui a longtemps financé les collectivités locales. La France et la Belgique vont injecter 5,5 milliards d'euros pour éviter une faillite pure et simple. La banque avait subi de plein fouet la crise financière. Son démantèlement devrait coûter le strict minimum aux contribuables, du moins selon la Commission européenne. Jacques Delors suggère au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Les Britanniques ne s'intéressent qu'à leurs intérêts économiques, rien de plus, estime l'ancien président de la Commission dans le quotidien allemand Handelsblatt. Le Premier ministre britannique David Cameron a déclaré il y a un mois vouloir rester dans l'UE, mais négocier un nouvel accord avec le vieux continent. Le Royaume-Uni est entré dans l'Union européenne en 1973, mais n'a pas rejoint la zone euro. Washington regrette profondément la décision russe. Le président Vladimir Poutine a ratifié la proposition de loi qui interdit aux Américains d'adopter des enfants russes. C'est la riposte à une loi américaine qui sanctionne les Russes liées à des violations des droits de l'homme. 52 familles américaines avaient lancé des procédures d'adoption. La justice belge met en cause l'église de Scientologie. Information révélée aujourd'hui par la presse. Le parquet fédéral belge la soupçonne depuis plusieurs années d'être une organisation criminel, je cite, d'organiser des escroqueries et de participer illégalement à la médecine. Après 6 ans d'enquête, les responsables de cette organisation sont cités à comparaître. Ils avaient déjà été mis en cause pour les mêmes faits dans les années 90, mais les procédures n'avaient pas abouti à un procès.
Lundi 31 décembre.
décembre sur France Inter.
Allô Sony.
Bonjour, c'est Abou Tété. Vous permettez que je vous appelle Abou Tété?
Soirée spéciale réveillon du jour de l'an.
Vous avez des coutumes dans votre pays lointain, Sony?
Zabou Bretman, Sony Chan et leurs invités surprises ouvriront la soirée spéciale réveillon.
Je préparais pour vous quelque chose de mariné hyper bon. C'est un petit chihuahua.
Oh d'accord, j'ai hâte d'y être.
À 20h30 le 31, chez Zabou Bretman, ce lundi sur France Inter.
Je peux venir sans cadeau?
France Inter.
La voix est libre.
16h04 sur France Inter, tout de suite on parle musique avec Sylvie Chapelle.
Avec Sylvie Chapelle, on parle musique.
Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Notre invité est compositeur et interprète à l'accordéon ou au clavier. Il est l'être commun entre Colette Renard et Céline Dion, le trait d'union entre Jean-Jacques Goldman et Olivia Ruiz. Mais sa plus belle histoire d'amour peut-être, c'est Barbara. On parle musique avec Roland Romanelli. Bonjour Roland Romanelli.
Bonjour.
Parler musique avec vous, c'est forcément parler de Barbara. Vous avez été à ses côtés durant 20 ans. Une étroite collaboration artistique que vous racontez dans votre spectacle qui s'intitule Barbara par Roland Romanelli. On ne peut pas se tromper. Actuellement au Théâtre Comédia à Paris. Ça fait 15 ans qu'elle nous a quittés. France Inter a d'ailleurs consacré une journée à l'artiste le 24 novembre dernier, jour exact de sa disparition. Je dis qu'elle nous a quittés, mais c'est vous qui l'avez quittée bien avant. Ce spectacle Roland Romanelli, c'est pour exorciser cet éternel regret de l'avoir quitté?
Non, c'est pas le regret de l'avoir quitté, parce que nous nous sommes séparés avec le plus grand amour qui existait entre nous, parce que bon, on croit toujours que c'est cette différence d'appréciation, on va dire, par rapport au spectacle de Lili Passion. Mais bon, en réalité, c'est pas ça. En réalité, Barbara, 2 ans auparavant déjà, me disait... Chérie, je veux pas que tu me vois vieillir, je veux pas que tu me vois malade, surtout que c'est moi qui l'ai emmenée faire sa rééducation. Vous savez qu'elle avait un problème
respiratoire.
De corde vocale distendue. Donc je l'ai emmenée chez Christiane Legrand pour faire sa rééducation, mais c'était peine perdue parce que bon, elle aurait jamais retrouvé sa voix. Donc tout ça pendant 2 ans, ça a été lourd pour elle, et donc elle voulait qu'on se sépare la façon la plus belle possible. Et je pense que c'est, elle a choisi ce fait de mon désaccord avec ce spectacle pour dire, bon, bah, écoute, tu peux partir maintenant, voilà.
Ça a été l'occasion.
Mais, vous savez, je pense que, d'après Jacques Rouvérolis, qui était son éclairagiste, et d'après ses musiciens, ils m'ont tous dit, tu sais, elle en a beaucoup souffert. Moi aussi, j'en ai beaucoup souffert. Mais bon, c'était ça. C'était la loi. C'était comme ça. C'était sa loi. Et ben, Barbara, à partir du moment où elle a décidé, bon, ben, on suit. Même, peut-être un an après, elle a essayé de me rappeler. Et puis moi, j'ai pas été très, très fin sur ce coup de téléphone que j'ai reçu, parce que elle avait l'habitude de plaisanter en disant, ici c'est Dalida. Est-ce que je suis bien chez un tel ou un tel? Et là, elle m'a dit, que je suis bien chez Jean-Michel Jarre, et je lui ai dit, vous vous trompez madame.
En l'ayant reconnu.
Et j'ai raccroché. Il faut dire aussi que j'étais en pleine séance d'enregistrement, mais quelque part...
Et vous ne regrettez pas ce geste?
Oui, je le regrette, oui, amèrement. Mais bon, je l'avais fait. Voilà, bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas revenir en arrière. Et puis, de toute façon, ça n'aurait rien changé, parce que je ne serais pas revenu. Et puis, bon, c'est vrai que 15 jours avant sa disparition, Barbara avait demandé à Gérard Daguerre de me demander de venir lui rendre visite. Donc, je me demande des fois si elle ne savait pas qu'elle allait partir.
Vous gardez d'elle le souvenir intact d'un être exceptionnel. Je précise que vous faites ce spectacle avec Rebecca May. Absolument. Et Sergio Tomassi à l'accordéon, votre successeur auprès de Barbara. Le tout sous les lumières de Jacques Rouvérolis, à la même
équipe. On garde la même équipe. C'est les...
Exactement. Ces hommes, Roland Romanelli, on va revenir à Barbara, mais vous vous êtes illustré avec bien d'autres artistes et dans des domaines très différents. Je le disais en début d'émission, en tant qu'instrumentiste ou compositeur, c'est ce que nous allons voir ensemble. On va commencer le dialogue musical avec Hiromi, pianiste de jazz que vous écoutez en ce moment parmi
Absolument,
d'autres.
Qui est étonnante.
Comment est-ce que vous l'avez connue et qu'est-ce que vous aimez
chez elle ? On m'a invité à aller voir un concert et ce n'était pas son concert à elle, elle était en première partie. Et elle a soulevé la salle, mais moi, elle m'a complètement impressionné parce que voir ce petit bout de femme avec autant d'assurance, autant de technique, autant de musicalité, je suis resté. Mais vous savez, moi, en principe, il m'en faut beaucoup pour me séduire. Et là, dès les 30 premières secondes, j'étais complètement conquis.
On écoute la pianiste Hiromi en live. Elle était en duo au Japon avec Chicoréa. Thank you.